France Musique.
Musique et moi.
Ara Abrikian.
Elsa Boublil.
Il faut que tout change pour que rien ne change.
Giovanni Tommaso de Lampedusa, Le Guépard. C'est avec ce galop extrait de la bande originale du film Le Guépard de Luchino Visconti sur une musique originale de Nino Rota que nous vous accueillons, Ara Abrikian, directeur délégué pour les contenus du groupe TF1, architecte, on peut le dire, de la nouvelle image et grille de cette chaîne, alchimiste de la télé. Vous avez œuvré pendant plus de 10 ans sur Canal+, avant de rejoindre TF1 où vous aviez commencé, je crois. Bonjour, Ara Abrikian.
Bonjour, Elsa Boublil.
Un galop du guépard pour illustrer cette phrase de Lampedusa, qui a inspiré donc l'œuvre de Visconti. Il faut que tout change pour que rien ne change. On dirait que vous êtes ou que vous rêveriez être un alchimiste, un magicien.
Oui, enfin, magicien, j'espère, enfin, je sais pas si je le suis, mais en tous les cas, oui, la transmutation, en tous les cas, du passé dans le présent, ça fait partie, je dirais, du travail d'un éditeur de télévision et d'essayer de recréer des nouvelles créations qui répondent aux besoins et aux nécessités d'aujourd'hui. Donc, mais au-delà de ça, c'était une façon de dire qu'on vit une révolution numérique qui est fondamentale, qui est phénoménale, dont on se rend pas forcément compte aujourd'hui, et que cette révolution, elle bouleversera nos quotidiens, elle bouleversera nos modes de vie, et que pour l'accompagner, il va falloir changer et se changer aussi profondément soi-même si on veut continuer à avoir le mode culturel, les œuvres, le travail qu'on voulait défendre jusque-là. Donc il y a nécessité d'accompagner, de faire naître ce monde nouveau, et que pour ça, bah, il faut réussir à l'accompagner. Donc cette phrase, je dirais, du Guépard revient toujours comme étant pour moi un aiguillon pour me dire qu'il faut toujours se remettre en mouvement et toujours essayer de réfléchir à cette révolution qu'on vit aujourd'hui.
Alors, on ne vous voit pas beaucoup dans les médias, alors que vous êtes un homme de médias, Ara Abrikian, ce qui augmente d'ailleurs notre connaissance de vous avoir parmi nous ce matin. Mais en fait, vous êtes l'invité de Musique et moi ce matin, parce que ça, c'est une chose aussi qu'on ne sait pas beaucoup, mais vous avez grandi dans la musique, en musique, Ara Abrikian.
Oui, alors j'ai grandi en musique parce que mon père est compositeur, chef d'orchestre, chef de chœur. Donc cette fréquentation de la musique, je dirais d'un point de vue intime, elle est très importante chez moi. Et donc c'est ce qui a fait en tous les cas mon goût également pour la musique. Et une musique qui est à la fois savante et populaire.
Et on va voir, enfin c'est vraiment la question qui m'occupe et qui nous occupe ce matin. On va voir comment cette musique a pu entrer dans ces sphères très différentes, qui sont par exemple les sphères des médias tout au long de votre carrière jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est Ara Aprikian qui est l'invité de Musique et Moi ce matin sur France Musique jusqu'à 12h30. Et puisque l'on parlait de votre père, eh bien on va écouter Le cœur si pan comitas. Comitas, interprété par le chœur Sipan Comitas, dirigé par Garbis Aprikian, votre papa, donc Ara Aprikian. Est-ce que j'ai tout bien dit? Aïmer?
Parfait, parfait. Aïmer, ouais. C'est notre père, c'est un des chants de la liturgie de la messe arménienne qui a été harmonisé par Gomitas. Gomitas qui est le grand musicien arménien, je dirais la figure tutélaire de la musique arménienne, qui a été l'équivalent, dans un autre registre, d'un Bartok allant dans les campagnes, recueillant toute la tradition orale des chants pour les harmoniser, les populariser et faire de cette tradition qui était purement orale le matériau d'une musique savante, y compris dans cette œuvre liturgique qui est donc aujourd'hui la messe officielle, je dirais, de la religion arménienne, et qui aujourd'hui est non seulement, je trouve, une très belle œuvre spirituelle, mais une très belle œuvre musicale. Et donc, c'était tout le travail de mon père de continuer à faire découvrir cette musique qui avait été, je disais, popularisée par Gomitas. Il l'avait fait écouter dans des concerts célèbres, et dans le public, il y avait Claude Debussy, il y avait des grands musiciens français au début du 19e siècle. Et après, le génocide étant passé par là, cette tradition avait disparu, ses porteurs de musique avaient été tués, et Gomitas lui-même était devenu fou et il est mort dans un asile psychiatrique à Villejuif. Et donc il y avait peu de gens pour porter cette tradition et cette musique. Et c'est le travail qu'a fait mon père toute sa vie, oui, pour essayer de faire découvrir cette musique.
C'est faire connaître la musique liturgique et populaire arménienne.
Oui, il n'y a pas de dimension, je dirais, il n'y a pas de dimension religieuse dans son travail.
Dans la démarche de votre père.
Et moi, par exemple, je ne suis pas spécialement croyant. Donc, s'il y a une dimension purement artistique et purement culturelle, d'essayer de faire connaître cette liturgie qui est une liturgie qui a une beauté universelle, qui dépasse simplement le cadre d'une messe pour les croyants.
Donc vous, Ara Aprikian, vous avez grandi avec ce papa qui faisait ce travail presque patrimonial, on pourrait dire. Du coup, vous avez appris la musique, il vous a fait chanter, vous avez chanté avec lui, comment ça s'est passé?
Non, alors l'exigence de mon père est telle qu'il ne pardonnait pas à des mauvais artistes comme moi de participer à son grand travail, je dirais, d'éducation et de popularisation. Non, mais j'avais pas ni l'oreille, ni le goût pour chanter. En revanche, j'ai beaucoup aimé regarder. Ça a rempli vraiment, je pense, beaucoup de choses chez moi. Et j'ai vraiment suivi le parcours des répétitions, du travail de composition et des concerts donnés, voilà, toute mon enfance.
Mais vous avez appris la musique ou pas? Vous n'avez pas?
Non, j'ai pas appris la musique.
D'accord. Et ce souvenir de suivre ce parcours de votre père reste un souvenir musical fort.
Oui, et particulièrement les voix, c'est-à-dire ce qui m'a beaucoup touché, ce qui me touche encore beaucoup aujourd'hui, c'est le travail sur les voix. C'est-à-dire ces voix, il n'y a rien de plus universel que partager l'émotion d'une voix, ces voix cristallines dans la messe qui touchent, je dirais, indépendamment de son origine, de son lieu et même du propos de la chanson. Thank you.
Éric Lesage et Franck Bralet interprètent avec l'Orchestre Philharmonique de Liège sous la direction de Stéphane Denève le concerto pour deux pianos et orchestre en ré mineur de Francis Poulenc dans son premier mouvement. Et Ara Aprikian, c'est une œuvre qui vous renvoie à un moment de votre vie. En tout cas, ce qui est fort, c'est qu'on entend dans cette œuvre, on entend de la complicité, on entend le caractère enjoué de Francis Poulenc. C'est une commande de la princesse de Polignac qui lui a commandé donc en 1931. Et on sent qu'il y a toute la patte de Poulenc dans cette œuvre. Mais on entend aussi quelque chose de justement de l'ordre de l'enfance, du jeu. Et je me suis demandé si ça correspondait pas à un jeu que vous auriez pu avoir avec un camarade.
Alors, c'est vrai que les goûts musicaux, ils sont formés par l'enfance, je crois, beaucoup, par la tradition familiale et par l'amitié. C'est-à-dire, au fond, rien n'est plus éloigné de ma tradition familiale que la musique de Poulenc. Elle n'a pas cette forme de gravité de ce que l'on a écouté, ouais, de vrai. Cette liturgie que l'on a là. Pourtant, mon père, qui a été à l'école normale de musique, au conservatoire, a connu cette période musicale française, mais c'était pas forcément son goût premier. Et alors, comment c'est arrivé jusqu'à moi? C'était ça, je trouvais la façon intéressante de repartir, d'expliquer ses goûts. J'ai retrouvé, il y a pas très longtemps, une cassette audio que m'avait fait un ami, et il y avait, donc c'était il y a 40 ans, il y avait une face A et une face B. Sur la face A, il m'avait enregistré de sa discothèque personnelle le concerto pour deux pianos de Mozart par Friedrich Gulda et Chick Corea. Et sur la face B, il y avait le concerto pour deux pianos de Poulenc, dont je me souviens plus les interprètes. Et ça m'avait fait découvrir une musique que je ne connaissais pas, que je n'aimais pas particulièrement. Et au fond, c'est par l'amitié, par la complicité que j'ai appris à découvrir cette musique. C'est effectivement ce langage très joyeux, très spirituel et en même temps très brillant qui m'a fait aimer cette musique et que je continue à aimer aujourd'hui.
Mais vous aviez quel âge? Et qu'est-ce qu'il vous a dit en vous donnant la cassette? Quand même, ça m'intéresse. Et comment il a réussi à vous faire apprécier cette...
Il me l'a fait apprécier en me la faisant découvrir.
Tout simplement.
Qu'est-ce qu'il m'a dit, je m'en souviens plus aujourd'hui. On avait 14 ans, je pense, 13 ou 14 ans. On partageait des goûts et il se trouve que ce garçon a évolué dans la musique et puisque aujourd'hui il dirige l'opéra comique, il s'appelle Olivier
Mantei. Et les Bouches du Nord. Donc, c'est drôle ce chemin. Donc, c'était bien une histoire d'amitié.
C'est une histoire d'amitié et qui prolonge aujourd'hui avec en faisant vivre ce patrimoine musical au sein même de l'opéra comique.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
J'aime bien cette idée, Ara Aprikian, de se dire qu'à 14 ans, vous partagiez des goûts musicaux classiques sur cassette. Et du coup, j'ai envie de vous demander quel genre d'enfant vous étiez, qu'est-ce qui vous animait enfant ou plus, un peu plus tard, vers l'adolescence?
Je crois que on était des enfants de la banlieue parisienne. On n'avait pas accès à cet univers de la culture autrement que par, en réalité, par la tradition familiale de mon côté et par la télévision ou par les médias ou le cinéma de l'autre. Encore fallait-il pouvoir accéder à un cinéma, se déplacer, y aller. Mais bon, ça faisait partie de ces grandes aventures de découverte du spectacle et de la musique. Et donc, du coup, les échanges, l'amitié permettaient aussi de faire découvrir d'autres chose, faire de sortir de son patrimoine, de son histoire, pour la confronter à d'autres, et avec leur histoire, leur culture, et des coups d'échanger. Et au fond, ça s'est fait sur la musique classique, tout autant que sur la musique actuelle de l'époque, mais ça s'est fait aussi à travers de la musique savante, comme ces extraits qu'on a pu écouter.
fière de moi. Si tu
tueras, mais que je vive ou que je meure.
Un extrait de Carmen de Bizet et Marius Constant, puisque c'est un extrait du film qui a été fait d'après la pièce revisitée par Peter Brook et Marius Constant, dont ils ont fait un film, Ara Aprikian. Alors c'est à votre demande qu'on écoute cet extrait, et évidemment je me demande à quoi ça correspond. Est-ce que vous avez vu la pièce quand elle a été montée dans les années 80, je crois 83, quelque chose comme ça, ou est-ce que vous avez découvert le film plus tard? Ça correspond à quoi?
Non, j'ai vu les spectacles, j'ai dû voir deux versions, parce qu'il y avait trois distributions je crois, j'ai dû en voir deux sur les trois, et c'est l'époque où j'ai découvert le théâtre par Peter Brook, par le truchement d'un professeur du lycée dans lequel j'étais, et qui nous a fait découvrir son travail à travers, donc c'était cette période-là, il y avait eu après ou avant, je me souviens plus, La Cerisée de Tchekhov, un certain nombre de pièces.
Donc au Bouffe du Nord. Hein.
Donc au Bouffe du Nord, ouais. Absolument. J'ai découvert ce spectacle qui a eu une très forte impression sur moi parce que là encore, j'étais plus habitué sur la musique classique avec des grands orchestres, la puissance sonore, des chœurs et l'émotion qui provient, je dirais, de l'unisson et de ce que ça peut éveiller dans le corps de chacun. Et là, au contraire, c'est tout le travail d'intériorité, de réduction pour aller au plus près du sens dramatique que faisait Peter Brook et qui était j'ai trouvé une réussite extraordinaire qui mettait au cœur vraiment de l'histoire de Prosper Mérimée au fond, alors revisité par Jean-Claude Carrière, par Peter Brook et par Marius Constant sur la musique. C'était d'ailleurs un attelage incroyable de talent et qui proposait aux spectateurs dans la salle une émotion de musique qui était, je trouve, extrêmement rare et qui a été très formatrice pour moi, à la fois du rapport au spectacle vivant, du fait que, au fond, il n'y a pas de tabou à avoir sur les œuvres. Je pense que
c'était jeune et tôt, donc, en fait.
Oui, mais avec toujours un tempérament assez conservateur, au fond, mais qui aime être bousculé par ce que des grands artistes font, comme, en l'occurrence, Peter Brook et Marius Constant, à travers de l'œuvre de Bizet.
La question du tabou sur l'œuvre, c'est intéressant. Vous connaissiez déjà Carmen de Bizet? Vous l'avez déjà entendu?
Oui, je connaissais. Et au fond, ils avaient enlevé tout ce que j'aimais de l'œuvre.
Ah, oui.
Les chants, les chœurs d'enfants, taratata, taratata. En y allant, je retrouvais plus tout ça. Mais j'ai retrouvé autre chose, j'ai retrouvé quelque chose qui était une émotion différente, une émotion au cœur de la puissance dramatique de l'œuvre et qui ne faisait pas injure non plus ni à Bizet, revisité par Marius Constant.
Et c'est d'autant plus intéressant que votre père, qui a travaillé à faire revivre le patrimoine arménien musical, lui justement, je pense, s'est attelé à nous faire entendre ce qui était, non, art africain.
Oui, oui. Alors moi, je dirais, c'est l'ambivalence entre la tradition et la modernité, entre la révolution qui vient et le nouveau monde qu'il faut, dans lequel il faut se mouvoir. Mais cette dialectique-là, je trouve qu'elle est riche, en tous les cas, de création.
La naissance de David de Sassoon de Garbis Aprikian, dirigé par Garbis Aprikian avec le chœur Sipan Komitas, c'était l'apparition de l'ange. Alors c'est une œuvre donc composée par votre père, Ara Aprikian, je crois qu'il a été donné pour la première fois en 94 à Paris, c'est ça ?
Oui, ça a été créé à la Sorbonne, dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne. C'est un grand oratorio qu'a écrit mon père pour deux chœurs avec un grand orchestre. Donc il demande beaucoup de musiciens pour pouvoir l'interpréter. Je l'ai vu, accoucher l'écriture, puis l'interprétation dans cette salle sous les fresques de Puvis de Chavannes. Donc
c'était le grand amphithéâtre.
C'était le grand amphithéâtre, absolument. Et c'est une très belle œuvre qui parle aussi du sujet dont on parle aujourd'hui, c'est-à-dire David de Sassoon. C'est une des grandes légendes mythologiques arméniennes à l'égal de la mythologie d'Arthur, des mythologies islandaises du Moyen-Âge. Et donc, sur cette histoire-là, il a traité l'histoire de la naissance de ce héros. Pour que ses parents lui donnent vie, ses parents doivent mourir. Donc, au fond, c'est aussi la métaphore de l'accouchement d'un monde nouveau qui doit, d'une certaine façon... tuer l'ancien, donc on reste dans la dialectique, je dirais, il faut que tout change pour que rien ne change. Mais c'est aussi celle de la préservation de la culture, de la préservation de l'identité et au fond de la continuation de son travail qui est de faire connaître cette musique inspirée de thèmes culturels arméniens ou folkloriques ou liturgiques et qu'il essaye de rendre dans cette musique occidentale classique sous forme d'oratorio avec, je trouve, un très beau travail sur la voix, sur les chœurs d'enfants. Voilà, c'est une œuvre qui me touche beaucoup et qui a la chance aujourd'hui de continuer à être représentée, à être jouée. Et que j'avais plaisir à vous faire découvrir.
Oui, avec, on a pris beaucoup de plaisir à découvrir et qui pose la question aussi à Ara Aprikian de justement comment, quand on porte aussi cette histoire que votre père a su porter lui aussi, puisqu'il y a la question du déracinement, il y a aussi la question du génocide, avec ce patrimoine, avec cette composition également, il arrive à nous faire entendre et poser des problématiques sur ce que nous sommes, où nous allons et d'où nous venons. Comment est-ce que ça a joué sur vous ? Est-ce que ça a eu un impact ?
Oui, ça a eu un impact très fort parce que, au fond, j'ai compris qu'un artiste, tout reste dans sa capacité, sa volonté inébranlable. Au-delà des situations politiques, au-delà de l'histoire, au-delà de tout, le créateur dépasse ça pour imposer sa vision qui naît de ses goûts, de son histoire, de son passé, de des réminiscences de sa vie, mais qui réussit à imposer aux autres dans un langage qu'ils peuvent partager. Et au fond, c'est ce travail-là qu'il a fait à travers la musique arménienne et qu'il rend, universel à travers ses compositions ou à travers ses interprétations de l'œuvre de Gomitas. Et c'est ce qui me plaît aujourd'hui chez les créateurs, c'est ce qui fait que je crois comprendre les gens qui ont envie de créer et de partager.
Comment être universel et à la fois singulier ?
Absolument.
L'Andante con moto de la symphonie numéro 5 en ut mineur opus 67 de Ludwig van Beethoven, interprété par l'Orchestre Philharmonique de Berlin sous la direction de Herbert von Karajan. Alors, c'est une œuvre que vous avez choisie, Ara Aprikian, qui correspond à un moment de votre vie, un moment plutôt professionnel.
Oui, disons que c'est plutôt un moment de formation, parce que cette musique, qui n'est pas très originale, hein, la 5e symphonie de Beethoven, elle raconte pas mal de choses sur la façon dont on peut parler de la musique classique. Et donc, ça a été une des œuvres que Clouzot a enregistrées avec Karajan dans ses captations qu'il a fait pour la télévision d'œuvres symphoniques avec l'Orchestre Philharmonique de Berlin.
Pour en revenir à l'universel et le singulier dont on parlait tout à l'heure.
Absolument. Et il a réussi, je trouve, quelque chose que peu de réalisateurs ont réussi, c'est-à-dire savoir filmer un orchestre. Il a mis de l'intensité, il a rassemblé tous les pupitres, il a créé une intensité dramatique visuelle sur la personne même de l'orchestre et du dialogue entre le chef d'orchestre et l'orchestre. Et je trouve que c'est toutes ces œuvres qu'il a fait avec la Philharmonie de Berlin et qu'il a captées, mises en scène, sont magnifiques, et notamment dans cette interprétation de la 5e symphonie de Beethoven. Œuvre qu'on retrouve dans une œuvre qui m'avait aussi beaucoup touché de Vajda, qui était le chef d'orchestre, interprété par John Gielgud, qui est ce travail entre l'orchestre et le chef d'orchestre sur cette œuvre qu'on voyait travailler, retravailler, notamment, si je me souviens bien, de l'Andante. Et c'est pour moi très intéressant parce que, d'abord, la figure du chef d'orchestre, vous l'avez compris, elle m'a marqué toute mon enfance.
Peut-être avec
elle m'a marqué filialement, mais elle m'a marqué aussi, je dirais, même professionnellement, parce que c'est Mickey dans L'apprenti sorcier.
Oui.
C'était ça aussi un des premiers rapports à l'orchestre. C'est le dessin animé avec Mickey qui dirige ses ballets.
Ouais.
Et au fond, ce rapport-là, chorégraphique, humain, et qui donne un son, qui donne, m'intéresse, me passionne, et je trouve que la personnalité des chefs d'orchestre est quelque chose de fascinant.
Musique et moi, Elsa Boublil, France Musique.
Ara Aprikian, vous êtes en charge des programmes et contenus de TF1. Alors évidemment, on a envie de s'interroger sur ce rapport que vous entretenez de la musique à l'image et vous demander comment est-ce qu'on peut faire entendre la musique classique à la télévision encore aujourd'hui? Est-ce que c'est une question que l'on se pose, que l'on peut se poser, puisque vous nous avez démontré à l'instant que, en tout cas, vous avez été sensible à cela?
Oui, bien sûr, je pense qu'on peut montrer des choses, la musique classique à l'image. Il faut trouver une façon de raconter un concert, raconter un orchestre, raconter une aventure. Encore une fois, il n'y a jamais de sujet tabou. Il faut simplement trouver la forme d'aujourd'hui pour raconter les sujets ou les œuvres. Mmh. Après, toutes les antennes ne peuvent pas diffuser des concerts de musique classique à 21h. C'est pas ça tellement l'objet. Mais c'est comment on peut continuer à raconter à faire vivre ces musiques de façon forte à travers la diversité de nos médias et de nos offres.
D'ailleurs, vous, Ara Aprikian, pourquoi la télévision? Parce que ça a commencé très tôt, je crois 21 ans, si j'ai bien lu. Premier stage à 21 ans.
Oui,
à TF1.
Absolument.
Enfin, c'était la une.
Oui, non, c'était TF1 déjà.
C'était à TF1, d'accord. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a
parce que moi, mon apprentissage du monde et de la culture s'est fait à travers ma famille, mes amis et la télévision. Mmh. C'est-à-dire le rapport au monde, la découverte du monde s'est fait à travers la télévision grand public, les westerns, la culture américaine, mais aussi la télévision de service public, la culture, des documentaires ou des œuvres de création. Donc cette diversité-là, elle est pour moi très importante et je crois qu'elle continue d'être à l'œuvre dans la télévision d'aujourd'hui.
Glenn Gould, en tout cas, c'est comme ça que vous l'avez découvert, je crois.
Absolument.
Un extrait des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach, interprété par Glenn Gould dans la version des années 80 à Raprikian, pour évoquer ce souvenir musical, là aussi d'abord télévisuel, c'est ça ?
Oui, parce que au fond, j'ai découvert Glenn Gould à travers les films de Bruno Mont-Saint-Jean, la série documentaire qu'il a fait autour de lui, et je crois qu'on a été toute une génération à découvrir Gould véritablement à ce moment-là, en tous les cas de gens qui ne le connaissaient pas forcément bien avant. Et pour moi, découvrir au même moment Brooke, pour qui tout est au moment de la représentation sur scène, et Gould, qui a abandonné la scène pour faire que des enregistrements dans la solitude, ou que j'imaginais en tous les cas la solitude et ce travail
et
avec
accessible
Bach,
à tous d'une certaine
mais
manière.
Mais accessible à tous. Ouais. Dans les deux cas, c'est une forme de générosité vis-à-vis d'un public, alors d'un public présent ou d'un public imaginaire, qu'on ne verra pas mais qu'on touchera. Et dans les deux cas, je trouve que c'est des formes très belles d'apport de ces talents, de ces artistes au public. Et donc, voilà, je trouve que ça me touche beaucoup. C'est aujourd'hui, alors, c'est, je dirais, beaucoup de puristes aimeront ou n'aimeront pas cette interprétation des variations Goldberg. Mais on la reconnaît entre toutes. Et au fond, l'entendre même chantonner derrière les notes, qui joue de façon presque comme un mathématicien, ça continue de me bouleverser.
Est-ce que c'est fondateur de ce que vous êtes devenu à Raprikian, en ce sens que on l'évoquait tout à l'heure, la question de comment transmettre la culture à travers la télévision, comment transmettre la culture, que faire de la télévision, puisque vous dites qu'elle vous a formé, que c'est ça qui vous a donné envie d'y aller. Qu'est-ce que vous êtes dit, vous, en prenant les rênes à la fois de Canal+, puis récemment de TF1, comment on transmet ?
Bah, on transmet d'abord de la création, de l'information, de la création des grands événements sportifs. On transmet aussi des formes de culture. Alors, ça, je dirais encore une fois, ça dépend des chaînes et des lieux.
Bien sûr.
On peut pas parler des mêmes sujets de la même façon sur toutes les antennes. Mais je crois vraiment que c'est un grand lieu pour permettre à des gens qui sont isolés dans leur maison, en banlieue, en campagne, dans les villes, de découvrir le monde et de découvrir la richesse du monde.
La Star Academy, la Nouvelle Star, c'était un peu ça, c'est un lieu de rassemblement.
Oui, dans la culture actuelle, dans la culture populaire de la chanson, mais c'est à chaque fois, pour moi, l'émotion d'un talent qui vient nous faire vibrer à travers le son de sa voix.
Parce que la Star Academy, c'est, est-ce que vous êtes à l'origine de l'idée ou pas
loin ? Je suis pas à l'origine de l'idée, mais enfin, j'étais à TF1 et j'ai beaucoup travaillé sur ce programme. There's a man who leads a life of danger. To everyone he meets, he stays a stranger. With every move he makes, another chance he takes. Odds are he won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They're giving you a number and taking away your name. Faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man. Persuasive lips. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. They've given you a number and
Un extrait de Danger Man, de la série Destination Danger à Rafikian.
Oui, alors c'est une série anglaise qui est surtout connue pour son interprète principal qui est Patrick McGowan, qui a ensuite été Le Prisonnier, une très fameuse série anglaise. Et c'était surtout pour raconter le fait que la musique a été très présente dans les génériques de séries, notamment à partir des années 70, moment où les séries sont devenues quelque chose de culturellement important.
Du coup, c'est devenu une vraie création, là, la musique.
C'est devenu une vraie création, instrumentale ou en chanson, et qu'on a retrouvé à travers des compositeurs éminents et qui font partie aujourd'hui de la culture, du monde actuel. Et dans un univers où la série est en train de devenir une œuvre à part entière de création, je pense que le générique, la musique et la musique originale pour les séries seront aussi des lieux de création importants.
Alors, précisément, ça, c'est vrai que c'est une question intéressante pour vous qui réfléchissez au contenu et au programme de TF1. Vous parlez de la composition. C'est vrai que l'identité d'une série, puisque vous le dites, hein, c'est très important aujourd'hui. Est-ce que l'identité passe par une création musicale? Est-ce que, du coup, vous allez réfléchir à trouver le compositeur qui donnera l'identité?
Oui, c'est un travail qu'on essaie de faire de plus en plus, en tous les cas, pour trouver des vraies musiques qui accompagnent les films et qui ne soient pas simplement de l'illustration musicale. Je pense que c'est très important, d'ailleurs. En général, la musique dite de film concourt beaucoup à l'émotion dans les films, beaucoup plus qu'on veut bien le dire, et on marginalise souvent, je trouve, un peu les musiciens de film, alors qu'ils sont pour moi des vrais co-créateurs de l'émotion dans les films. On a des très grands musiciens de films en France, comme Alexandre Desplat par exemple,
et
Bruno Coulet, Michel Legrand qui nous a quittés récemment, mais ils participent vraiment à la création des films de façon extrêmement importante. Et je dirais que la vision toujours très centrée sur le metteur en scène oublie de temps en temps un peu cette réalité qui est, à mon avis, très importante.
Et c'est une bonne façon aussi de lutter contre l'uniformisation de la pensée, Ara Aprikian.
La musique ?
Ouais.
Absolument.
On va poursuivre avec un chef d'orchestre qui compte et qui va dans ce sens-là, je crois, en tout cas dans le sens de votre exigence, Ara Aprikian, à savoir faire du populaire exigeant. On va écouter Gustavo Dudamel.
We'll be right back.
Estancia opus 8 de Alberto Ginastera, Los Trabajadores Agricolas, une suite pour orchestre de Ginastera, interprétée par l'orchestre symphonique Simon Bolivar sous la direction de Gustavo Dudamel. Alors voilà un chef d'orchestre qui va poursuivre notre conversation à Raprikian, puisque c'est un chef qui, lui, a réussi à rassembler le populaire et l'exigence.
Oui, et qui vient de sa culture sud-américaine, formée par toute cette école Sistema vénézuélienne, et qui réussit à apporter ça dans l'univers classique occidental de la musique classique, à la direction de l'orchestre de Los Angeles, des plus grands orchestres du monde, sans oublier d'où il vient, sans oublier le travail qu'il a avec la jeunesse, avec l'orchestre Simon Bolivar. C'est à la fois un vrai musicien, un vrai homme de culture, et c'est un homme de communication d'aujourd'hui. Je dirais comme Gould l'était d'une certaine façon, comme Leonard Bernstein l'était, c'est son autant des hommes de communication au sens noble du terme, de partage, que des interprètes et des hommes et des musiciens. Et donc j'aime beaucoup son travail. J'essaye de le voir à chaque fois qu'il passe à Paris ou quand je me déplace et que je peux aller l'écouter un peu partout dans le monde. Je trouve qu'il a cette capacité de raconter, je dirais, le national sud-américain, la culture universelle, et d'être au plus profond des interprétations. Je l'ai écouté par exemple avec l'orchestre Simon Bolivar dans des symphonies de Gustav Mahler. C'était magnifique à Salzbourg, c'était éblouissant de ces jeunes dont on peut penser qu'ils sont relativement éloignés de la culture viennoise de Mahler, et pourtant qui arrivent à la rendre avec une subtilité et un travail extraordinaire. Et je trouve que ce travail qu'il fait avec les orchestres, qu'il a fait avec les jeunes, qu'il fait aujourd'hui avec les plus grands orchestres du monde, et sa jeunesse, sa fougue, en tous les cas, est tout à fait exaltante.
On peut s'en inspirer ?
Je crois, et puis je crois qu'aujourd'hui, on commence à s'en inspirer. Quand je vois le travail que fait la Philharmonie d'Emos, la Maîtresse Populaire à l'Opéra Comique, tout ce travail avec la jeunesse autour de la musique, je crois que c'est important parce que la musique, la culture, c'est une façon aussi de relier des gens qui ont des histoires différentes et qui sont dans des situations sociales différentes.
Bernstein, on en parlait il y a quelques instants, et bien le voici avec Brahms.
Thank you.
Gidon Kremer interprète avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de Leonard Bernstein le concerto pour violon en ré majeur opus 77 de Brahms dans son mouvement Allegro Giocoso ma non troppo vivace, le dernier mouvement donc de ce concerto à Raprikian. Brahms, c'est le compositeur que vous écoutez avec plaisir.
Oui, alors j'ai beaucoup de compositeurs que j'écoute avec plaisir, mais au fond, quand je ne sais plus, j'ai envie d'écouter de la musique, ça se tourne à la fin autour de Brahms ou de Bach. Sans doute parce que j'ai écouté ses œuvres toute mon enfance, j'écoutais en boucle. Alors, c'est aussi une période où on avait moins le choix qu'avant. Donc, quand on avait une cassette, quand on avait quelque chose, donc moi, je me souviens de l'enregistrement d'Henrik Sehring au violon, eh ben, on l'écoutait en boucle et moi j'ai une passion pour ce concerto pour violon depuis ce moment-là et j'ai toujours la même émotion quand je l'écoute là quelques instants ou quand je l'écoute dans un concert.
Ça c'est encore avec votre camarade Olivier Mantelli parce qu'il me semble que lui aussi il aime Brahms. Oui c'est ça.
Oui.
Eh bien on va se quitter à Raprikian puisque c'est la fin de cette émission. Bernstein, encore lui, vous continuez d'écouter de la musique. On l'a écouté comme chef d'orchestre. Vous l'évoquiez tout à l'heure comme étant un grand passeur, un grand communicant. C'est aussi un grand compositeur. Candide, l'ouverture de Candide, ça fait partie de vos récents coups de cœur?
Oui, c'est une œuvre que je connaissais pas très bien, que j'ai découvert, je crois, au Châtelet il y a quelques années quand elle a été reprise. Et je trouve que cette œuvre, qui est à la fois cette œuvre vraiment américaine, parce que Bernstein est un vrai compositeur américain avec le sens de la mélodie américaine, et cette référence à la culture voltairienne française, je trouve que voilà, c'est un formidable témoignage du passage que permet la musique.
Merci à Raprikian d'être venu passer cette heure et demi en notre compagnie. Je vous souhaite plein de belles choses pour cette rentrée et une très belle année sur TF1. C'était l'ouverture de Candide de Leonard Bernstein, interprétée par l'Orchestre Philharmonique de New York sous la direction de Leonard Bernstein. Pour terminer cette émission, en compagnie de Hara Aprikian, en charge des programmes et des contenus de TF1. Merci à Guillaume Leduc qui était à la prise de son, Sophie Pichon à la réalisation, attachée de production Marie Ferdinand. Vous pouvez retrouver toutes les informations concernant cette émission sur le site de francemusique.fr à la rubrique Musique et moi. Je vous souhaite une très belle semaine à l'écoute de France Musique et à dimanche prochain, 11h.
France Musique. À réécouter sur francemusique.fr.